20 часов в Париже.
В Париже, он идет к термометру.
Да-да, c'est rond, puis c'est beau, c'est l'air.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Comme tous les vendredis soirs, nous revenons sur les temps forts de l'actualité de la semaine avec le regard des rédactions du Monde de Radio France Internationale. Ce soir, pour la rédaction russe, Anya Stroganova.
Добрый вечер.
Alison Heard de la rédaction en anglais. Et Miguel Martins de la rédaction en portugais.
Boa tarde.
Bonsoir à vous tous. Alors cette semaine, l'actualité politique a été très riche en France. Elle a été marquée par le résultat des élections législatives qui ont donné à Emmanuel Macron la majorité absolue au Parlement. Dans la foulée, le président de la République a demandé à son premier ministre de former un nouveau gouvernement. Ce ne devait être qu'un remaniement technique et en fait, il y a eu des surprises après de nouveaux rebondissements. Alison, comment le résultat de ces élections et le remaniement du gouvernement est-il perçu de l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne donc ?
Oui, Philippe, c'est un petit peu à l'image de la France en fait, c'est-à-dire énormément d'intérêt pour les présidentielles, avec cet effet peut-être un peu surpris de nouveautés avec Emmanuel Macron et puis le côté un peu on a peur que le Front National arrive au pouvoir avec Le Pen et puis après bah les législatives c'est assez technique, c'est comme si déjà tout avait été fait avec le premier gouvernement, donc c'était un gouvernement intérimaire. Il y a eu parité mais en même temps beaucoup de gens ont remarqué que les femmes n'avaient pas tout à fait les bonnes places
gouvernement, les choses ont changé
et voilà, donc c'est plus ou moins apprécié. C'est comme si la France a montré l'exemple en faisant rentrer vraiment beaucoup, la moitié des femmes avec des vraies responsabilités quant aux affaires qui ont touché le MoDem pour le moment.
Avec donc la démission de plusieurs ministres,
oui,
et ça c'était
compris,
mardi.
Ministre, voilà, ouais. Et y compris François Bayrou. Honnêtement, ça n'a pas fait énormément de bruit. Je trouve que voilà, les gens ils ont dit Macron a fait le nécessaire en écartant au moins pour le moment François Bayrou et son équipe.
Alors Miguel Martins, la rédaction de l'Usophone s'est attachée, elle, à comprendre les raisons des succès que remporte Emmanuel Macron semaine après semaine, élection après élection.
Voilà Philippe. Pedro Sousa, c'est un économiste basé à Paris, nous livrait son sentiment sur les recettes de Macron qui ont convaincu donc les Français. Je vous propose de l'écouter.
Emmanuel Macron a réussi au long des últimos meses ter uma ação pédagógica interessante junto aos franceses.
Quelle est son analyse?
Donc Pedro Sousa estimait que dernièrement Emmanuel Macron a fait preuve d'un certain esprit de pédagogie. Il a notamment réussi à concilier des valeurs de la gauche et de la droite, à savoir l'égalité et le pouvoir d'achat, cher à la gauche, avec les valeurs du mérite, de la réussite et l'ouverture à la globalisation de la droite. Cela a créé un espace qui n'existait pas jusque-là, ni à gauche, ni à droite. On va maintenant voir si l'exécutif arrive à gouverner et si les Français, surtout, acceptent cette politique.
En attendant, c'est un petit peu Jean qui rit et Jean qui pleure. La République en marche, le parti d'Emmanuel Macron au zénith, alors que le PS, lui, est défait. Alors, comment les experts que vous avez interviewés analysent-ils la déconfiture du parti de l'ancien président, François Hollande?
Voilà, c'est une autre économiste basée à Paris, Cristina Semblano. Elle estime qu'il s'agissait là de la chronique d'une mort annoncée. On l'écoute.
Nós tínhamos vindo a assistir à morte du Parti Socialiste, uma morte programada, é a crônica de uma morte anunciada.
Elle parle de la mort du Parti Socialiste, hein, si je
voilà,
comprends bien.
Cet économiste, cette mort du Parti Socialiste n'était pas seulement annoncée, elle était même souhaitée. Elle prétend que dès 1983, François Mitterrand avait porté les premiers coups au PS, et ce, à travers des mesures d'austérité, à l'époque du franc fort, de la relance de la compétitivité. Et là, le coup mortel au PS aurait été porté par François Hollande lui-même. Pour elle, les politiques de droite et de gauche, les républicains ou les socialistes, c'est à quelque chose près la même chose. Le Parti Socialiste consentait seulement, c'est son avis personnel, à essayer de guérir les blessures dont il était responsable. C'était le cas, par exemple, de la couverture maladie universelle ou encore de plusieurs revenus minimums.
Miguel Martins, autre question. À quoi pourra donc ressembler la nouvelle Assemblée nationale française?
Voilà, le portrait du Palais Bourbon, la question, nous l'avons posée à Pedro Sousa, un économiste basé à Paris. On le réécoute.
Eu acho que vamos ter um partido socialista inexistente e a debater as suas contradições internas.
Donc Pedro Sousa nous disait que dans cette Assemblée nationale va donc siéger un parti quasi inexistant, le PS, et en train de débattre de ses propres contradictions, et ce alors qu'une bonne partie des Républicains partagent les convictions du nouveau président, avec la scission du groupe parlementaire, en effet, au Parlement, alors que la droite la plus conservatrice n'aura pas les coudées franches pour faire grand-chose, et les moins de 10 députés du Front National devraient, eux, faire un peu de bruit, avec la France insoumise également à garantir un certain nombre de députés, mais avec une marge de manœuvre dérisoire. Emmanuel Macron, d'après lui, aurait fait preuve d'intelligence. Il a compris qu'il faut convaincre en permanence. Les voix se conquièrent à travers l'action. Et le Premier ministre, en réagissant à ce scrutin, aurait là aussi parlé du besoin d'une certaine humilité.
Alors comment la vie politique française est-elle observée maintenant à l'étranger? On se souvient qu'il a été question de la Russie lors de la campagne pour l'élection présidentielle, quand Emmanuel Macron avait affirmé être victime de cyberattaques en provenance de Moscou. Pour ce qui est des législatives maintenant, Agnès Stroganova, les Russes se sont-ils intéressés au scrutin?
Beaucoup moins, parce que vous l'avez dit, la campagne présidentielle en France, ça a littéralement électrisé l'opinion publique russe. On en a parlé presque autant que de la campagne présidentielle américaine.
Oui,
et la presse russe, vous vous en souvenez, elle était particulièrement malveillante à l'égard d'Emmanuel Macron, mais pour les législatives, c'était beaucoup plus calme. Probablement, si le Front National, avait fait un score plus important, ça aurait plus intéressé les Russes. On se souvient que Vladimir Poutine a tenu à accueillir Marine Le Pen en personne en mars de cette année à Moscou. Marine Le Pen, c'est une des personnalités les plus appréciées par les Russes, car les médias en parlent énormément et d'une manière très élogieuse.
Alors malgré tout, c'est le scrutin législatif, hein, n'a pas passionné les foules. Comment est-ce que la presse commente-t-elle la nouvelle donne politique en France ?
Le journal Commerçante, par exemple, dans un article intitulé « La macronisation de la France » explique qu'avec ce résultat aux législatives, Emmanuel Macron a désormais le pouvoir absolu en France. Selon ce journal, ces élections sont un triomphe pour La République En Marche et une catastrophe pour tous ses opposants, et pour les Républicains, et pour les socialistes, et pour Marine Le Pen, et pour Jean-Luc Mélenchon. En triomphe des novices, titre de son côté le portail économique RBK, en notant qu'Emmanuel Macron a eu la carte blanche pour mener ses réformes, mais la lassitude des Français de la politique joue contre lui.
Autre chose ?
Et peut-être.
Selon Commerçante, je crois que vous avez également lu un parallèle avec ce qui se passe en Allemagne.
Oui, parce que donc selon cet observateur de Commerçante, avant les élections législatives en Allemagne, Macron pourrait même devenir le leader informel de l'Union européenne, puisque Angela Merkel, le poids lourd de l'Europe, sera occupée par ses affaires antérieures. En France et en Europe, Emmanuel Macron a reçu des avances colossales et on attend désormais de lui des résultats comparables à son succès au second tour de la présidentielle, considère le journal, et ajoute que la déception au cas d'échec du nouveau président français serait particulièrement douloureuse.
Livrons-nous à l'exercice maintenant de comparaison entre ce qui se passe en France et en Grande-Bretagne, Alison Hearn.
Oui, ce qu'on peut dire, Philippe, c'est un petit peu la situation en France, c'est une sorte de miroir à l'envers de ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est-à-dire c'est une inversion totale de la courbe politique. Plus Macron et son gouvernement ont l'air de plaire et de monter dans l'opinion publique, plus Theresa May et son gouvernement descend aux enfers. Ici, nous avons donc un jeune président dynamique. Tout ça, c'est provisoire, hein, mais pour le moment, qui peut combattre, qui a un poignet de main plus fort que Donald Trump, qui tient tête à président Poutine, qui, pour l'instant, se montre très, très européen, qui est assez copain avec Angela Merkel. Il joue vraiment pour avoir une bonne place en Europe et qui a réussi surtout son pari de créer un nouveau centre en dehors des partis traditionnels de droite et de gauche. Et
ce qui change des 5 années qui viennent de se passer avec du French bashing.
Bah oui,
ça change du tout au tout.
Oui, ça change pour le moment. On verra bien parce que, bon, voilà, on peut
s'il n'y a pas une francophilie, il y a une sorte de macrophilie.
Mais il y a un peu d'admiration parce qu'il a quand même réussi. Et pour le moment, Theresa May, mais tout ce qu'elle touche, ça tombe en ruine, quoi.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les changements à la tête de la présidence, bien évidemment, mais surtout de l'Assemblée nationale en France.
This is Radio France International.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Le Portugal vient de subir l'une des pires tragédies de son histoire. Un gigantesque incendie qui a ravagé le centre du pays. Et le bilan est très lourd, au moins 64 morts, 200 blessés. Alors la rédaction en portugais de RFI a particulièrement couvert cette actualité. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là, Miguel Martins?
Voilà une question qui est plus que légitime par rapport à cet effroyable bilan humain. Ce jeudi, le PSD, le principal parti d'opposition, a réclamé une commission d'enquête indépendante. Le Premier ministre a tout de suite accepté de collaborer pour que l'on puisse comprendre les circonstances d'une telle catastrophe. Je vous propose de l'écouter.
Le gouvernement manifeste totale ouverture, disponibilité pour collaborer et appuyer.
Que dit le chef de l'exécutif portugais?
António Costa faisait état de son ouverture totale et disponibilité afin de collaborer avec toute proposition de commission technique indépendante susceptible d'être créée par le Parlement, et ce comme cela a été suggéré par le Parti social-démocrate dans l'opposition. La FAO s'est également proposée de faire une évaluation indépendante de la situation au Portugal, initiative à laquelle le gouvernement de Lisbonne s'associe.
Alors nombre des victimes sont mortes en fuyant à bord de leur voiture.
Voilà, c'est désolant. En effet, je vous propose d'entendre le fils de l'une de ces victimes mortes carbonisées dans leur voiture sur la route 236, un axe baptisé dernièrement comme la route de l'enfer dans cette région de Pedrógão-Grande.
Fui jantar à Figueira da Foz. A minha mãe ligou-me a dizer que estava tudo a arder para eu vir depressa.
Le témoignage de ce survivant.
Voilà, Roberto Quevedo nous disait qu'il était parti dîner à l'extérieur et qu'il avait reçu un appel de la part de sa mère lui demandant de revenir au plus vite car le feu se propageait rapidement. Lorsqu'il est rentré chez eux, sa mère était déjà partie et a donc fini par décéder. Il prétend que sa mère a été prise de panique, il n'a pensé qu'à s'enfuir comme les autres, alors qu'ils auraient mieux fait de rester chez eux. Il a donc reconnu la voiture calcinée de sa mère ainsi que d'autres véhicules de personnes de cette localité sur cette même route. 11 ou 12 personnes du village y ont perdu la vie. Alors il dit que c'est dur, il faudra du temps pour encaisser le coup parce que c'est très douloureux, une tragédie, un enfer.
Oui, mais comment faire dans la mesure où le Portugal est sous climat méditerranéen, des températures élevées l'été, des forêts de pins, d'eucalyptus. Le Portugal d'ailleurs qui est régulièrement la proie des flammes.
Très régulièrement. À cela s'ajoute le manque criant de ressources pour combattre les feux de forêt, un pays qui a vécu sous une forte cure d'austérité. Faute d'avions de combat aux flammes, Lisbonne se contente d'en louer pendant moins de 2 mois. Toutefois, d'après Paulo Fernandes, ingénieur forestier portugais, il aurait été possible d'éviter cette catastrophe. Je vous propose de l'écouter.
C'est une occurrence rare, mais non est de mode nenhum inesperada.
Donc il nous disait que c'était vrai que la première explication dénonçait un orage sec qui serait à l'origine de la foudre, qui aurait embrasé un premier arbre et qui se serait très vite répandu. Cet enseignant prétend qu'il s'agit là d'un événement rare, mais qui n'était nullement inattendu. C'est déjà arrivé et on sait que cela peut encore se produire de temps à autre. Il aurait fallu anticiper la combinaison de ces éléments avec un autre niveau de préparation et de réponse de la part des pouvoirs publics.
Et sachez que 3 canadairs français ont participé à la tentative d'éteindre les flammes dans cette région du Portugal. Merci à vous, Miguel Martins, de la rédaction lusophone de RFI.
RFI.
Quant à la rédaction anglophone, elle s'est attachée à une décision du gouvernement kényan pour lutter contre l'absentéisme à l'école. Il a décidé de fournir à chaque écolière des serviettes hygiéniques gratuites. Alison Hurt?
Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur, Philippe, parce qu'on sait très bien, toutes les femmes, que ça peut être très compliqué de gérer ces règles, surtout lorsqu'on est à l'école. Et désormais au Kenya, les jeunes filles scolarisées auront droit à des serviettes hygiéniques gratuites. C'est le président Uhuru Kenyatta qui a signé lui-même mercredi une modification à la loi de l'éducation. Et donc, désormais, le gouvernement doit fournir des garnitures, et je cite, gratuites, en quantité suffisante et de bonne qualité à toutes les filles scolarisées dans un établissement d'enseignement public. Il faut aussi que les écoles elles-mêmes assurent les moyens de pouvoir jeter ces serviettes de manière sûre et environnementale. On estime donc qu'un million de filles pourraient être concernées par cette mesure.
Alors qu'est-ce qui a poussé le gouvernement à prendre le taureau par les cornes, à décider cette, cette mesure?
C'est sûrement que l'idée, c'est d'encourager les filles à s'inscrire à l'école et surtout d'y venir régulièrement, même pendant la période de leurs règles.
Oui, parce que par incommodité ou par honte, elles restaient à la maison.
Exactement. Mmh. Alors, parce que les filles qui sont issues des milieux modestes ne peuvent pas déjà s'acheter des serviettes parce que ça coûte cher. Après, peut-être qu'elles n'en ont pas assez, donc on ne peut pas s'échanger comme il faut. Et après, il y a effectivement une sorte de stigmatisation. Donc, elles préfèrent rester à la maison.
Ouais, et ce n'est pas la première fois que le gouvernement kényan prend des mesures de la sorte.
Non, le Kenya est assez à l'avance, je trouve, sur le continent, parce que déjà, il y a une dizaine d'années, le Kenya a enlevé la TVA sur les produits hygiéniques. J'aimerais bien que la France et la Grande-Bretagne fassent pareil. Mais cette fois-ci, cette mesure va beaucoup plus loin. Samuel Norga, qui est directeur adjoint du Plan International au Kenya, c'est un des ONG qui fournissent déjà des serviettes gratuitement à des filles. Ils s'en félicitent.
This is extremely important and we are very happy the government has taken such a stand.
Alors, qu'explique-t-il?
Oui, donc il dit que c'est une mesure très importante. Il en est, c'est normal. Il est content parce qu'il dit que les filles que eux iront contre, plus que la moitié d'entre elles n'ont pas les moyens d'acheter des serviettes et par conséquent, elles manquent environ 6 jours d'école par mois. Et même celles qui vont à l'école, parfois, les conditions sont tellement mauvaises pour elles pendant cette période, elles préfèrent.
Mais tout ça coûte cher quand même.
Oui, ça coûte cher. Je peux pas. Vous donner
Donc le gouvernement kényan
le gouvernement a déjà fait apparemment à peu près 5 millions d'économies qui vont être dédiées à cette cause. Certainement, il faut trouver encore un peu plus d'argent et c'est les écoles elles-mêmes qui vont s'occuper de faire la distribution.
Voilà donc pour cette initiative du gouvernement kényan afin de freiner la déscolarisation des jeunes adolescents. Vous écoutez Accent du Monde. C'est à voir à la télévision russe cette semaine. La chaîne Pervy Canal, financée par le Kremlin, a commencé à diffuser The Putin Interviews. C'est une série d'entretiens avec Vladimir Poutine, donc réalisée par le cinéaste américain Oliver Stone. Agnès Stroganova, ce documentaire, pourquoi est-ce qu'on en parle autant en Russie?
Ce documentaire, ce sont en fait 4 heures d'entretien de Poutine avec Oliver Stone, réalisateur américain 4 fois oscarisé. Pendant 2 ans, Stone a régulièrement rencontré le chef du Kremlin et il en a tiré un film de ces rencontres. Ce film a d'abord été diffusé sur la chaîne américaine Showtime. Vous le savez probablement, les médias russes officiels adoptent un ton très anti-américain depuis ces dernières années, mais dès qu'il y a un journaliste occidental qui est prêt à dire du bien de la Russie de Poutine, la presse russe s'emballe. Les médias locaux en parlaient depuis des semaines, avant même la sortie du film, avec des bandes-annonces et des reportages très très élogieux, comme par exemple dans ce sujet de la chaîne d'État Vesti. Je vous propose qu'on en écoute un extrait.
Заставка как интерпретация задумки всего фильма – открыть русскую матрешку и показать, что внутри.
Ouvrir une matrioshka russe, montrer ce qu'il y a dedans, ces premières images, les Américains les connaissent et les comprennent. Ce qui est difficile, c'est de montrer ce qui se cache derrière ces images, nous explique la journaliste qui a fait ce reportage. Ensuite, on entend la voix de Vladimir Poutine qui dit que ses parents l'ont eu tard, après avoir perdu 2 autres de leurs enfants, dont un est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, lors du blocus de Leningrad. C'est une histoire que Poutine adore raconter. Et puis, la journaliste reprend en tout c'est la biographie de Poutine racontée par lui-même. C'est l'histoire de notre pays vu par notre président.
Et qu'est-ce qu'on apprend d'autre sur Vladimir Poutine dans ce documentaire?
Peut-être un peu plus sur sa vie privée. Vous le savez, Vladimir Poutine, il cache ses enfants, ses 2 filles qui ont déjà plus de 30 ans. Il en parle très rarement. Les médias russes, quand ils évoquent ses enfants, ils utilisent toujours cette formule plutôt étrange. La fille supposée de Vladimir Poutine, c'est les précautions qu'il faut prendre pour parler de sa fille cadette, Ekaterina Tikhonova. Mais là, à Oliver Stone, Poutine fait une exception et il affirme pour la première fois qu'il est déjà grand-père et qu'il a 2 petits-enfants. Je vous propose qu'on écoute ce dialogue.
Vous êtes déjà дедушкой? Oui. Vous aimez vos enfants?
Donc Oliver Stone lui pose la question, êtes-vous déjà grand-père? Oui, répond Vladimir Poutine. Aimez-vous vos petits-enfants? Bien sûr. Êtes-vous un bon grand-père? Jouez-vous avec eux dans le jardin? Très rare.
En gros, les personnes sont fascinées par Poutine. Hein.
Littéralement, oui. Il a déclaré dans un entretien au journal gouvernemental russe Rossiyskaya Gazeta, puis il a fait les mêmes aveux aux médias américains. Donc il l'aime bien, je crois. Oui.
Et c'est donc à voir tout au long des prochaines semaines à la télévision russe. Merci Anya Astroganova, merci à vous tous pour ce qu'il y a à écouter sur les antennes de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde.